plus sportif, vous avez dans notre cœur la place du bonheur et notre satisfaisant.
Expulsion, exploitation, bétonisation, les JO de la violence. C'était l'intitulé d'une soirée rencontre organisée vendredi 29 mars dernier à Lille par l'atelier populaire d'urbanisme de FIV. Le but de cette soirée, c'était de faire réfléchir sur les impacts sociaux et environnementaux des Jeux Olympiques de manière générale et en particulier ceux de Paris 2024. Parmi les invités, on écoute Natsuko du collectif Saccage 2024.
Au début, Saccage 2024, c'était un collectif des collectifs qui luttait contre l'infrastructure en Seine-Saint-Denis liée aux Jeux Olympiques 2024. L'idée, c'est de mettre en force tous les collectifs qui luttaient séparément avant.
Alors pourquoi ces collectifs se battaient? C'était contre justement la rénovation urbaine, le projet urbain autour des JO en Seine-Saint-Denis, c'est ça?
Exactement. Notamment le collectif contre la piscine olympique qui était prévue à Aubervilliers. Ce n'était pas la piscine olympique pour la compétition, mais pour l'entraînement. Et pour construire cette piscine, il fallait bétonner les jardins ouvriers, à peu près un hectare. Il y avait plein d'autres projets un peu similaires, un peu plus ou moins. Contre cette aberration écologique, on voulait s'organiser.
Les conséquences en Seine-Saint-Denis, ça a été aussi des expulsions. On en parle très peu, mais des gens ont dû quitter leur logement. Alors, il n'y a pas eu d'expropriation, mais des gens quand même expulsés.
Oui, voilà. Donc, vous parlez du foyer ADF de Saint-Ouen, qui était le foyer des travailleurs étrangers qui vivaient en plein milieu du village olympique. Et oui, il y a ce type de rénovation urbaine, accélérateur de la gentrification. Mais il ne faut pas espérer que ces gens rejoignent la lutte anti-olympique quand même. On subit les mêmes conséquences, mais on ne cherche pas le même type de victoire.
Comment est-ce que vous êtes passé de lutter contre ces projets urbains à finalement une position anti-Jeux Olympiques?
Dans mon cas personnel, c'était parce que j'étais déjà anti-olympique, convaincue. Du coup, j'ai rejoint aussi des luttes locales. Pour moi, c'est l'inverse. Et pour les autres, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé leur engagement contre quelques projets spécifiques et puis qui sont devenus anti-olympiques parce qu'ils ont découvert que rien ne va en fait. C'est pas que l'urbanisation, mais il y a aussi l'accélération des mesures sécuritaires, tout ça. Mais tout le monde n'est pas devenu comme ça. Il y a des gens qui étaient contre certains projets et qui ont arrêté leur lutte parce que soit ils ont gagné, soit ils ont perdu leur lutte contre quelques projets.
Autour des JO, il y a des enjeux économiques, il y a aussi des enjeux nationaux, des enjeux de lien social. Comment vous voyez les gens qui disent c'est la promotion du sport, aussi la promotion de la lutte contre la discrimination aux porteurs de handicap? Comment vous voyez un peu ce discours-là pro-olympique, quoi?
Effectivement, le sport, aussi médiatisé comme ça, il véhicule quelques valeurs positives. Mais en fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Nous, on voit surtout des conséquences souvent concrètes. L'expulsion des travailleurs, la bétonisation des jardins, tout ça. Et des gens qui défendent les sports ou les Jeux olympiques, ils ne parlent jamais de ça. On parle complètement de choses tout à fait séparées. Et qu'est-ce que je peux dire aux gens qui ne s'intéressent pas aux conséquences concrètes, soit qui ignorent volontairement parce que c'est des gens, c'est des faits très très embêtants. Ben, parlons de la même chose déjà. Je ne parle pas de la valeur du sport. Et, il y a des anti-sports en France, mais moi, je ne fais pas partie de cette école. Le sport, je m'en tape. Ça ne m'intéresse pas. Et, mais ce qui m'intéresse, c'est comment ces événements sportifs sont organisés et ses conséquences. Du coup, ben, parlons de ça d'abord. C'est tout ce que j'ai à dire.
Alors, ce que vous disiez aussi là, dans la discussion, c'est que ce sont des combats difficiles parce que, bien sûr, c'est contre une grosse machine. Et puis aussi, c'est ponctuel. Après, les JO sont finis, donc le militantisme peut s'arrêter. Mais en France, il y a aussi cette ouverture, ce combat pour 2030, puisque la France est aussi candidate pour les JO d'hiver en 2030.
Oui, tout à fait. La France est candidate en ce moment même pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 et ce sera officialisé très très probablement, 99% de cas, juste avant les Jeux de Paris. On a la date officieuse le 24 juillet, a priori à ce jour-là, les Alpes françaises auront les Jeux d'hiver et il n'est pas trop tard pour mobiliser contre cette candidature parce que c'est vraiment pas légitime cette candidature, c'était décidé complètement à l'insu de tout le monde. Et je pense que beaucoup de gens à Lille ne sont même pas au courant de cette candidature et c'est illégitime avec tout un tas de non-transparence et du coup, maintenant, il y a des gens qui s'organisent contre cette candidature aux Alpes et il faut aider ces gens-là. Il faut véhiculer leurs arguments et avec toutes les critiques déjà accumulées autour des JO de Paris, il faut rassembler tous ces discours et tous nos vécus, tout ça. Et pour cela, la grande difficulté, c'est que les médias nationaux sont toujours aux côtés des Jeux Olympiques parce que c'est un événement médiatique. Leur fonctionnement économique, c'est ensemble, quoi. Mais grâce à la radio associative comme ça, on peut quand même avoir un des autres canaux. Et si vous écoutez cette radio, il y a des informations qui sont véhiculées par les militants et les chercheurs. Et il faut continuer cette conversation pour empêcher les prochains JO d'hiver en France.
Après Natsuko du collectif Saccage 2024, on écoute Jade Lingard, journaliste pour Mediapart. Elle vient de sortir un livre intitulé Paris 2024, une ville face à la violence olympique.
En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Jeux Olympiques sont un événement sportif, comme tout le monde le sait, mais c'est également une opération d'urbanisme très importante, avec la construction d'un nouveau quartier sur la ville de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de l'île Saint-Denis, donc dans le 93, un nouveau quartier de 6000 habitants qui sera le devenir du village olympique pendant les Jeux, mais également un village des médias construit dans une autre partie de la Seine-Saint-Denis, et également un pont et toute une série d'aménagements. Donc, en gros, en fait, les Jeux Olympiques, c'est un processus d'aménagement urbain très important avec beaucoup d'argent qui est mobilisé. Et tout cet argent, en fait, qui est dépensé sur des quartiers qui sont des quartiers populaires, défavorisés, ont des effets, on peut dire, en partie positif parce que ça crée des logements, mais beaucoup d'effets négatifs aussi parce que ça crée des logements qui ne sont pas directement accessibles aux personnes qui habitent déjà ces quartiers.
Ce que vous disiez aussi dans la discussion à laquelle on a assisté, c'est que on organise la ville pour des gens qui viennent faire du tourisme. Ce n'est pas les gens de la ville qui décident ce qui va se passer dans leur ville finalement et comment va être construite leur ville.
Oui, donc ça c'est vraiment un des problèmes démocratiques liés aux Jeux Olympiques, puisque comme ce sont des événements qui doivent se produire exactement à la date prévue, il n'y a pas de décalage possible, il n'y a pas de retard possible. Donc il faut que tout soit prêt au moment sont prévues. Et donc, tout est organisé de manière très verticale, organisé autour d'un compte à rebours que rien ne peut faire dévier. Et à partir de ce moment-là, en fait, cette organisation très, très par le haut, très verticale, fait qu'on va construire des aménagements dans des quartiers sans demander aux habitantes et aux habitants ce qu'ils en pensent, sans même leur demander s'ils sont d'accord. Et il y a un vrai défaut de concertation et de consultation des citoyens et citoyennes. Et la raison de ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que les Jeux Olympiques, c'est un processus qui est hyper rapide. Il y a énormément de choses à organiser en très peu de temps. Et en fait, la machinerie, l'espèce de méga machine olympique qui se met en place, qui est portée vraiment à la fois beaucoup par la puissance publique, beaucoup par l'État et beaucoup par les entreprises privées, les sponsors, les investisseurs immobiliers, l'industrie du tourisme, l'industrie du sport, toute cette industrie privée qui dépense beaucoup d'argent dans l'organisation des Jeux, tout ça fait que, en fait, il y a très très peu d'espace, voire pas du tout, pour demander aux habitants directement concernés ce qu'ils en pensent et comment ils voient les choses.
Alors c'est sans doute trop tard pour annuler les Jeux Olympiques, mais ce que vous disiez aussi, c'est que partout où la population a été consultée, dans les villes qui ont pensé à être candidate, eh bien, la population a plutôt rejeté. Et finalement, le succès des luttes anti-Jeux Olympiques, c'est plutôt justement de faire renoncer les villes à des candidatures.
Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand Paris a été choisi en 2017 pour organiser les Jeux de 2024, Paris était la seule ville candidate. Pourquoi ? Parce que dans les autres villes dont les mairies avaient envisagé la candidature et où il y a eu des référendums, des votations citoyennes, des consultations, eh bien, à chaque fois que les gens ont pu s'exprimer, ils ont refusé les Jeux. Donc on a l'exemple de Boston aux États-Unis où il y a eu tout un mouvement, No Boston Olympics, qui s'est organisé autour du slogan de « on n'aménage pas les villes pour leurs visiteurs, mais pour leurs habitants ». Finalement, la mairie de Boston a renoncé à présenter sa candidature. À Hambourg, en Allemagne, il y a eu un référendum qui a donné avis défavorable majoritaire. La ville de Hambourg a retiré sa candidature. La ville de Rome avait envisagé de candidater pour les Jeux d'été, olympiques d'été. Finalement, il y a eu un changement de municipalité, un changement de majorité municipale. Et c'est le mouvement 5 étoiles, Cinque Stelle, qui a été élu et qui avait fait campagne en partie contre les Jeux. Et en fait, à côté de ça, par opposition, à Paris, il n'y a eu aucune consultation. Et même dans le dossier de candidature de Paris 2024, il y avait une clause qui expliquait que au CIO, choisissez-nous. Un des avantages de la candidature de Paris, c'est que la population ne peut pas être consultée par référendum. Ce qui est une réalité constitutionnelle, c'est pas possible de faire un référendum en France sur pour ou contre les Jeux Olympiques. Mais ce qui est fou, c'est que c'était même présenté dans le dossier de candidature français comme un avantage pour convaincre le CIO avec nous. Une fois qu'on a la candidature, c'est bon, elle pourra se mettre en œuvre.
Le temps est suspendu au-dessus de toi. Nos cœurs ne font qu'un et t'apportent le souffle qu'il faut pour cet exploit. La foule se lève, tous avec toi. Pour ta sportivité et aussi ton fair play. Des drames de bons exemples.
Le terrain d'enquête, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est là aussi où vous habitez. Vous y avez rencontré des profs de sport, peut-être aussi des associations sportives amateurs. Quel est leur regard ? Parce que ça doit être un petit peu partagé. Il y en a qui peut-être sont pour la tenue de ces Jeux Olympiques. Et en même temps, voilà, c'est une certaine organisation du sport qui est mise en avant, le sport d'élite, des choses qui ne sont pas forcément accessibles à toutes et à tous. Et puis on sait que en Seine-Saint-Denis, comme à Lille, comme dans d'autres villes, l'accès au sport est parfois difficile.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, moi, mon fils est au collège à Aubervilliers. Son prof de sport, il a une casquette Paris 2024 et il est à fond sur les Jeux, il trouve ça super. Et bien sûr qu'il y a il y a des profs de sport, il y a des sportifs, il y a des athlètes dans ce département qui sont très contents que le sport puisse vivre un événement très populaire, en tout cas avec beaucoup de moyens, qu'il soit mis en évidence, etc. Mais ce qu'il y a également, c'est une mobilisation des professeurs d'EPS donc de sport dans le 93, qui sont syndiqués, hein, donc dans leur syndicat majoritaire, a organisé toute une consultation l'année dernière qui était hyper intéressante, où ils ont demandé aux profs de sport de quoi vous avez besoin, vous, dans votre pratique professionnelle, qu'est-ce qui vous manque. Et ça leur a permis de faire un vaste sondage qu'ils ont publié ensuite sur leur site, enfin, sur leur blog, où ils montrent qu'en fait, il y a un énorme écart entre ce qui est organisé pour les Jeux, donc c'est-à-dire bah, c'est 10 milliards d'euros dépensés pour 2 fois 15 jours d'événements et voilà, beaucoup d'argent mis tout d'un coup sur le sport, beaucoup de promesses. On attend beaucoup de ces Jeux qui incitent les jeunes à faire plus de sport, à s'inscrire dans les assos sportives et tout. Et eux disent qu'il y a un énorme écart entre ça et nous, nos besoins. Et donc leurs besoins, c'est des réfections de gymnase, c'est plus de créneaux dans les piscines pour pouvoir faire nager leurs élèves, mais c'est aussi plus de moyens pour pouvoir bosser avec des animateurs associatifs. Enfin, c'est globalement plus de moyens pour tout, aussi y compris plus de moyens en termes de budgétaire, éducation nationale, pour avoir plus de postes d'enseignants sportifs. Bref, ils disent, nous, on est prêts à relever le défi de augmenter les pratiques sportives chez les jeunes, mais pour que ça fonctionne, ça peut pas être juste 2 fois 15 jours quoi. En 2024, on a besoin d'un plan structurel étatique, ministère des sports, pour nous donner plus de moyens pour remplir ce, enfin répondre à ce défi. Et ils ont poussé un peu l'ironie, enfin ils ont été un peu ironiques, c'est-à-dire comme les Jeux coûtent 10 milliards d'euros, ils ont fait un plan à 10 milliards. Et en disant, bah, nous, en fait, avec 10 milliards en plus pour développer, on peut y arriver. Et on voit bien qu'il y a cet écart-là. Et donc, ce qui fait que, même s'ils sont sportifs, qu'ils adorent le sport, etc., ils se sont mis à développer un point de vue très critique des Jeux Olympiques en disant, bah, ouais, quand même, il y a un côté sport-spectacle. Et il y a un peu un mensonge sur l'idée, ou une illusion, pour être plus gentil, il y a un peu une illusion sur l'idée que ça va suffire, en fait, à faire du sport aux jeunes, et en dehors et par ailleurs. Et juste pour dire qu'à côté de ces problèmes des profs de sport, donc éducation nationale, il y a aussi toutes ces associations, elles sont très nombreuses en Seine-Saint-Denis, elles sont toutes en difficulté budgétaire parce qu'il y a eu des réductions de subventions des collectivités locales pour les assos, et en fait elles ont toutes besoin de plus de budget. Et là-dessus, il y aurait eu un vrai enjeu à pouvoir pérenniser l'argent des JO, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent dépensé d'un coup et il y a peu d'argent qui continue après. Or, là, il y aurait eu un enjeu pour être vraiment efficace, quoi, à faire se pérenniser les financements, parce que c'est une énorme machine à cash, les Jeux Olympiques. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un moyen de faire durer un peu des versements d'argent, des allocations financières post-jeux? Ça, c'est quelque chose que ces profs auraient aimé voir se mettre en place.
Les JO, c'est aussi un événement médiatique. On entend très peu les voix, les arguments des gens qui critiquent les Jeux Olympiques. Vous enquêtez, vous travaillez pour Mediapart, mais c'est quand même difficile. Ouais. C'est quand même difficile.
Oui, c'est difficile. Moi, je vais vous dire, en tant que journaliste, je suis assez estomaquée en fait par l'unanimisme autour des Jeux dans les médias. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est pas correct dans le sens où il y a toute une série donc d'impacts sociaux des Jeux Olympiques, que ce soit les gens qui ont été délogés de là où ils habitaient pour la construction du village olympique, que ce soit les destructions environnementales, que ce soit toutes les émissions de gaz à effet de serre que vont représenter les venues en avion de ces 13 millions de touristes, que ce soit la chasse aux pauvres qui se met en place en Seine-Saint-Denis. Bon, bref, il y a quand même beaucoup de problèmes sociaux structurels. Il y a une vraie violence olympique, quoi, qui s'est abattue sur une partie des territoires concernés par les Jeux, et force est de constater que ça a très peu de place dans les médias. Je pense que c'est lié à différentes choses. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu de référendum, qu'il n'y ait pas eu de consultation, n'a pas créé une culture démocratique de la discussion sur ces Jeux. Je pense qu'il y a aussi la peur de passer pour ceux qui mettent la mauvaise ambiance. C'est qu'il y a une envie, quoi, de fêtes populaires, de grands rendez-vous, et être la personne qui arrive en disant attendez, regardez les effets sociaux, mais attendez, ça coûte très cher, mais attendez, c'est pas aussi bien qu'on nous dit, ben, ça casse un peu l'ambiance. Donc je pense que là, de ce point de vue-là, il y a peut-être une crainte de en termes d'image, quoi, de passer pour ceux qui sont un peu ronchons ou les intellos ou les gauchistes de service. Et puis, dernier point, je pense que par ailleurs, ça c'est un vrai sujet de démocratie de l'information, c'est difficile de travailler sur les Jeux Olympiques. C'est difficile d'avoir de l'information. Il y a énormément de communication. Le COJO, le comité d'organisation des Jeux, a des gros moyens de communication, organise des événements quasiment tous les jours, et donc emmène les journalistes visiter le village olympique, le village des médias, là, découvrir le parcours de la flamme olympique. Enfin, voilà. Donc en fait, ils nourrissent. Ils ont une très bonne politique de communication, en réalité. Ils nourrissent un peu la bête médiatique avec des événements tout le temps. Et en fait, ça occupe l'espace. Donc ça occupe l'espace. Et à côté de ça, avoir accès à l'information, c'est très verrouillé. C'est très opaque, c'est difficile de comprendre qui décide quoi, par où passe l'argent, qu'est-ce qui va se passer exactement. C'est très difficile et donc ça demande du travail d'investigation de longue haleine. Et c'est vrai que ce travail-là, un peu laborieux, un peu loin des paillettes, j'ai envie de dire, il a plus de mal à trouver de la visibilité, mais il n'est pas trop tard. Nous ne sommes que fin mars, il y a encore quelques mois jusqu'au 26 juillet.
Jade Lingard, journaliste pour Mediapart, elle vient de sortir ce livre Paris 2024, une ville face à la violence olympique aux éditions Divergence. Avant elle, on écoutait Natsuko de Saccage 2024, collectif de sensibilisation, d'organisation et de soutien aux mobilisations anti-JO de Paris. Vous pouvez prendre de leurs nouvelles sur un site internet qui s'appelle saccage2024.noblogs.org. Alors, on les a toutes deux rencontrées le 29 mars dernier à l'occasion d'une soirée rencontre organisée par l'APU de FIV, l'atelier populaire d'urbanisme, dans le cadre de leur festival À nous la ville.
Dans des restos super chics, on voit les régimes qui doivent tous se taper. Je préfère les mettre avec un poster caché.
Et puis, je vous signale que Radio PFM proposera bientôt une journée spéciale consacrée à d'autres regards sur le sport. Cette journée devrait s'intituler « Va y avoir du sport ». Sport populaire, alternative sportive, point de vue décalé, réflexion sur les aspects sociétaux du sport, critique de la société du sport-spectacle, sport, musique, littérature, poésie. Ça sera sur PFM 99.9 le vendredi 19 avril prochain, toute la journée, et avec une soirée partagée qui sera en direct, à laquelle vous pouvez participer. Il y aura aussi des invités, des lectures, de la musique. On vous en reparlera, mais retenez votre soirée le vendredi 19 avril. Va y avoir du sport sur PFM.
Ok mec, à nous. Les supporters sont cornés, ils restent assis. Ils portent un bac de pierre, ils gueulent comme des truies. Alors...